Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs, rendons gloire à Dieu. Père, merci pour tout ce que tu fais. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose de terrible qui s'appelle la trahison. C'est terrible, la trahison. Mais il faut en parler parce que, vous savez, un jour ou l'autre, vous pouvez être trahi. Vous avez peut-être déjà connu la trahison. Ou un jour ou l'autre, vous pouvez peut-être être tenté de trahir. Et il faut savoir que c'est très grave, la trahison. Ça fait très mal. Et que la trahison conduit pratiquement au suicide et à l'échec en tout. Particulièrement si vous trahissez quelqu'un qui est oint, qui porte l'onction. C'est a des conséquences terribles. Moi, j'ai eu beaucoup de trahisons contre moi et j'ai vu beaucoup de vies détruites à la suite de cela. Ce n'était pas mon fait, mais je l'ai vu. Parce que l'onction de Dieu est sur ses serviteurs, sur sa servante, sur ses serviteurs, quand ils se tiennent dans une position particulière. Et la trahison, c'est quelque chose qui est terrible. C'est une arme que l'ennemi brandit. Et c'est des pensées qui viennent. Et nous allons voir dans la vie de Judas à quel point la trahison a été le produit de Satan. Je voudrais vous dire, avant d'ouvrir notre Bible, que Judas a été appelé par Jésus pour faire partie des 12 apôtres. Judas avait une position extrêmement proche de Jésus. Judas n'était sûrement pas galiléen, il venait d'une autre région, et on pense qu'il venait d'une ville qui s'appelle Iscariote, donc. Hein, et il est entré, on peut dire, dans l'intimité de Jésus. Et on peut dire que pendant 3 ans et demi, il a été très très proche de Jésus. Au même titre que Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, tous les apôtres. Il partageait tout avec Jésus. Et vous voyez, c'est toujours quelqu'un qui est proche de vous, très très proche de vous, qui vous trahira. Et c'est toujours lorsque vous êtes proche de quelqu'un que vous pouvez être tenté de trahir. Et donc vous devez faire attention à la trahison. Vous savez, dans ce pays, il y a un passé. Beaucoup de gens ont trahi. Hein, ils sont allés dénoncer des familles. Il y a eu des choses horribles. Nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé il y a 60 ans dans ce pays, que Dieu, par son sang, pardonne ses graves péchés. Les Français ont trahi d'autres Français. Les Français ont dénoncé des gens qui étaient peut-être leurs voisins, leurs amis, qui sont partis dans les camps de concentration. La trahison est odieuse. Mais les conséquences de leur acte ont dû vraiment détruire leur propre vie. C'est quelque chose de terrible. S'il y a eu des trahisons dans votre vie, si des personnes dans votre vie ont trahi, sachez que vous devez arrêter cette malédiction. Et vous devez comprendre que tout commence dans la pensée. Regardons un petit peu à Judas. Donc la personne qui était Judas. Judas était un homme vraiment proche de Jésus. Il était tellement proche qu'il partageait tout et que Jésus pouvait lui parler de cœur à cœur. Il lui avait confié des responsabilités. Il portait l'argent, donc il était trésorier. Il avait un rôle important. Il était apôtre. Il était appelé à être apôtre. Ce n'était pas n'importe qui, Judas. Ce n'était pas quelqu'un qui venait comme ça de loin. Les gens qui vous trahissent sont des gens proches de vous, qui vous connaissent, qui connaissent un jour ou l'autre, vous ferez face à la trahison. Vous avez sûrement déjà fait face à la trahison. Et la trahison, ça ravage les âmes. Ça blesse. Mais ça ne ravage pas autant que celui ou celle qui trahit. Parce que celui ou celle qui trahit, eh bien, a un destin qui est tourné vers la mort, à moins qu'il ne se repente. Et donc, quand on porte l'onction, il y a beaucoup de trahison autour de soi. C'est pour ça qu'avant d'être pasteur, Dieu nous teste. Dieu me teste, Dieu m'a testé. J'ai fait face à des trahisons, j'ai fait face à des épreuves et j'ai été testé parce que j'ai réagi de la bonne façon. Et lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on porte l'onction, Dieu nous équipe pour faire face à toutes sortes d'épreuves et à toutes sortes de difficultés, aussi bien physiques que spirituelles, et à les combattre et à avoir la victoire, n'est-ce pas? C'est comme un manteau qui vous donne des forces. Mais voyez, Jésus, il avait ses apôtres avec lui, il avait toutes sortes de disciples, toutes sortes de personnes, et il connaissait le cœur de Judas. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose dans votre vie. Vous ne devez pas être inconscient. Ce qui compte dans votre vie, c'est votre cœur. Ce que vous mettez dans votre cœur, ce qu'il y a dans votre cœur. nous sommes responsables de notre cœur. C'est très important. Ça veut dire de ce que nous recevons et ce que nous acceptons à l'intérieur de nous. C'est très, très important. Nous devons toujours, toujours penser à nettoyer nos pensées de façon à ce qu'elles n'affectent pas notre cœur. Vous savez, il y a de très paroles très importantes en ce qui concerne le cœur, parce que Jésus en a parlé, mais il est dit dans Proverbes 4, 23, « garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » C'est prophétique et c'est puissant. Les chrétiens, Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à notre façon de réagir. Dieu regarde à notre façon d'être, à ce que nous pensons, à la façon dont nous voyons les choses. Dieu regarde à notre cœur, comment nous nous formons, comment nous traversons les épreuves. Est-ce que nous comprenons le sens même des épreuves que nous traversons? Parce que Dieu, lui, il regarde à notre cœur. Comment nous voyons les choses, ce que nous pensons, comment nous réagissons. La Bible dit aussi dans Proverbes 23, 26, « Mon fils, garde-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voies. » Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en combat et en conflit, que votre cœur est troublé, mettez vos yeux sur la parole de Dieu. Que votre Bible soit toujours à portée de main afin de l'ouvrir et de pouvoir prendre la nourriture qui y est à l'intérieur. Car dans Proverbes 23, 26, il dit « Mon cœur, donne-moi ton cœur, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent à mes voies. » Donc le cœur, ce que nous avons à l'intérieur est très important. Jésus a dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les trahisons, ça vient de l'intérieur. En Jésus-Christ, nous avons été lavés, mais nous devons faire attention à ce que nous mettons dans nos pensées, parce que ça va un jour, si nous méditons dessus, descendre dans notre cœur. Or, la trahison, c'est une arme que Satan lui-même utilise. Vous connaissez l'histoire de Judas. Donc, Judas était parmi les élus. Il était tellement proche de Jésus que le dernier soir, avant que Jésus ne soit crucifié, vous savez, eh bien, il a dit, il savait ce que Judas méditait, et le Seigneur a dit, quelqu'un va me trahir. Et tous les disciples, Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est nous? Déjà de dire cela, ça prouve qu'ils ne risquaient pas de trahir, parce que celui qui trahit a médité de trahir. C'est pas, nous allons voir une pensée qui arrive comme ça, je vais te trahir demain. Non, c'est une méditation qui vient dans le cœur et qui prend du temps. Et nous allons voir quand ça a commencé avec Judas. Donc la trahison, ça se prépare dans la vie. Lorsqu'on a de l'amertume, lorsqu'on a des choses qu'on garde à l'intérieur, eh bien, il y a des armes que l'ennemi va utiliser pour conduire à la trahison. Donc Judas, vous voyez, il avait préparé, médité sa trahison. Jésus le savait. Vous savez quand tout a commencé pour Judas? Judas, dès le départ, n'était pas honnête. Le Seigneur lui avait donné cette place de trésorier, donc il s'occupait des finances. Et il est dit que dès le départ, il prenait de l'argent pour lui. Il détournait de l'argent. Il en gardait une partie comme ça, mais il détournait. Les disciples le savaient, tout le monde le savait. Donc quand vous lisez les évangiles, il le sait. Mais vous voyez, il n'était pas droit, il n'était pas honnête. Et donc c'est quelque chose qui a ouvert la porte à quelque chose de plus grave. Donc l'honnêteté doit faire partie de notre vie. D'être honnête dans nos finances, d'être honnête dans nos relations, d'être honnête dans le voir. L'honnêteté, la fidélité sont des qualités que Dieu veut nous donner et que Dieu nous a données en Christ, mais que nous devons développer. Peut-être nous ne les avions pas au départ, mais Dieu nous voit, nous regarde et il veut que nous développions ces qualités. Or ces qualités, elles ne tombent pas d'en haut, c'est à nous à les développer. Ça c'est notre part. L'honnêteté, la droiture, hein, ne rien prendre à personne, et être honnête, fidèle, parler bien des gens, tout ça, c'est des qualités que nous devons développer. Mais voyez, dès le départ, Judas avait un problème et Dieu le testait. Il avait le choix de régler son problème comme il avait le choix et comme il a choisi, lui, de tromper. Il a choisi le choix de trahir. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à l'argent. Pour terminer les cours des 7 semaines pour changer, nous avons terminé par un très bon enseignement sur la prospérité, ce que c'est vraiment. Et on a vu pas mal de choses intéressantes sur le fait de de ce que l'amour de l'argent, est la racine de tous les maux. Or, Judas, il avait ça, il avait l'amour de l'argent. Il prenait, il détournait, vous savez. Et il ne rendait pas de compte à ses amis, à ses disciples, ni à Jésus. Et donc, les gens savaient qu'il volait. Mais Jésus ne disait rien, donc, vous voyez, il a continué. Et puis, un jour, il y a eu cette scène importante où il y a eu cette femme, lorsque Jésus est allé manger chez Simon, il a vu cette femme qui est venue pleurer et qui a cassé son vase d'albâtre. En vérité, c'était Marie. Hein, elle avait un vase de grand prix. Dans un vase d'albâtre, elle avait un parfum de grand prix qui avait une grande valeur. Et donc, elle a cassé ce vase. Elle a répandu ce parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Et lui, il était vraiment en colère. Comment elle a pu faire ça? Elle aurait pu donner aux pauvres. Et Jésus l'a repris. Et il n'a pas aimé ça. Pourtant, Jésus l'a repris gentiment. Et il lui a dit, tu sais, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait quelque chose qui a un rapport avec ma résurrection. Il a été très, très frustré de ce qu'il ait été repris. Vous le regarderez dans votre Bible. Hein. Je vous dirai où c'est tout à l'heure. Hein. Il a été extrêmement frustré. Et à partir de là, il a commencé à concevoir un plan de trahison. Il s'est dit, je vais aller voir les sacrificateurs qui ne pouvaient plus supporter Jésus, étant donné qu'il avait un succès extraordinaire, il y avait des miracles et qu'ils se sentaient totalement dépassés par le message de Jésus. Donc ils avaient vraiment envie, ils avaient dit, on a envie vraiment que cet homme quitte cette région ou meure ou disparaisse. Donc à partir de ce moment-là, l'idée de trahir Jésus est venue dans le cœur de Judas. Donc comment ça se passe la trahison? C'est quelque chose qui est produit par une réflexion, qui vient dans la pensée, avec un plan qui n'est pas arrêté. Vous savez, Kenneth Hagin explique bien la façon dont les gens produisent du mal dans leur vie. Ça ne vient pas comme ça. Tout vient par une pensée qui est semée. Alors, vous savez que dans notre tête, on a toutes sortes de pensées. Je vous ai un jour expliqué, c'est comme des balles qui passent. Il y en a toutes les couleurs. Il y a des bonnes, des moins bonnes, puis il y en a des très mauvaises, hein. Le problème, c'est de les évacuer. Elles passent et on ne les retient pas. Hein? Et ce qu'a fait Judas, lui, il a retenu cette pensée de dire « je vais me venger, je vais trahir ». Et Kenneth Hagin raconte très bien que ces pensées mauvaises qui viennent dans le cœur des gens sont méditées, pensées. Par exemple, un pasteur, il raconte ça très bien dans ses livres, peut-être vous l'avez lu, un pasteur... va voir Kenneth Hagin parce que sa femme l'a quitté. Elle était dans le ministère, elle partageait le ministère avec lui, ils avaient des miracles, ils avaient une magnifique congrégation, il y avait des choses magnifiques, et voilà que cette femme est partie pour partir dans le monde. Et donc, il était catastrophé, son mari, ils avaient des enfants, tout ça, et il est venu voir Kenneth Hagin, il dit, mais comment c'est possible? Elle est partie, comment c'est possible? Elle veut faire du cinéma, elle veut faire des choses, elle est complètement abandonnée le ministère. Et donc Kenneth Hagin s'est mis à prier et le Seigneur lui a dit, voilà comment les choses se sont passées. Il lui a montré une vision. Il lui a montré cette femme et elle a reçu une parole. Ils vont faire attention à nos paroles. Quelqu'un lui a dit, tu es une très belle femme. Tu es très belle. Comment se fait-il que tu es là? Tu es une très très belle femme. Donc cette pensée est venue, hop, elle l'a reçue. Et elle a, avec cette pensée qui s'arrêtait, elle a médité dessus. C'est vrai, je suis une très belle femme. Je pourrais faire quelque chose d'autre. L'ennemi a commencé à infuser des pensées. Et elle a médité sur ses pensées. Et à partir de là, elle a eu le désir d'aller dans le monde pour réussir, alors qu'elle servait Dieu avec puissance. Et donc, cette pensée a été méditée. Et à un moment donné, vous voyez, c'est comme une boule noire qui est descendue où? Dans son cœur. Et à partir de là, rien ne pouvait l'arrêter parce que c'était décidé. Et donc, cette femme est partie dans le monde et a perdu son salut à cause de cela. Et donc, Kenneth Hagin a pu raconter à ce pasteur, voilà, on ne peut rien faire. Même Jésus m'a dit de même pas prier parce que c'est sa décision. Elle a décidé de laisser tomber l'onction et de partir dans le monde et elle ne veut plus entendre parler de Dieu. Et donc, vous voyez, tout commence dans la pensée. Et Judas a médité sur sa trahison en allant voir les gens parce qu'il aimait l'argent. Et si l'apôtre Jacques a dit « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux », ça veut dire que l'argent, lorsque vous le suivez, il vous conduira à faire des choses qui peuvent être malhonnêtes. Pas toujours, mais qui peuvent être malhonnêtes. C'est pourquoi c'est important de comprendre ce qu'est la prospérité selon Dieu. La Bible nous enseigne comment utiliser l'argent, comment faire en sorte que l'argent ne soit jamais notre maître, mais notre serviteur, que nous l'utilisions de façon à ce qu'il ne nous domine pas. Et donc, voyez, Judas a continué de se préparer à cette vengeance parce qu'il était mécontent de ce qui se préparait. Et Jésus a commencé à parler qu'il allait mourir. Et donc, Judas ne savait pas qu'il allait être l'outil, totalement l'outil de sa mort. Hein, parce qu'il était un peu dans le flou. Il savait que c'était un grand messie, que c'était le rabbin, le rabbi, il l'appelait rabbi d'ailleurs. Hein, et d'ailleurs, ses disciples l'appelaient seigneur. Et donc, il ne savait pas tout sur le futur de Jésus. Mais en tous les cas, la pensée de le trahir qui est venue dans sa tête a travaillé et Satan était derrière. Mais voyez, tant qu'il a été voir les sacrificateurs, il leur a demandé combien vous me donnez pour vous montrer qui est Jésus, pour que vous puissiez le prendre, etc. Voilà, on vous donnera 30 pièces d'argent. Tant qu'il a parlé et qu'il n'a pas agi, il n'était pas encore perdu. Mais voyez, ce dernier jour avant la Pâque, regardez, dans Jean 13, vous le lirez verset 2. Jésus, dans Jean 13, a fait quelque chose d'extraordinaire pour montrer son amour à ses disciples. Il leur a lavé les pieds. Il leur a montré à être serviteurs les uns des autres. Il a vraiment prouvé son amour en étant vraiment le serviteur de tous. Et il est dit que, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui, pour Jésus, de passer de ce monde au Père, pendant le repas, Jésus n'avait pas encore lavé les pieds de ses disciples, hein, c'est pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Le diable est l'auteur de la trahison. Lorsque vous acceptez, que vous désirez vous venger et trahir, l'auteur de ce qui va se passer, qui suscite ces pensées, c'est Satan. Mais vous êtes maître de Satan. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre vos pensées. Vous avez des choix. Hein ? Satan n'a que le droit et le pouvoir qu'on lui donne. Jamais, jamais, il ne peut dominer sur nous que si on le laisse dominer. Vous comprenez ? Eh bien, il est dit que le diable avait mis dans le cœur, ça veut dire qu'il avait réussi à insuffler des pensées, la pensée de trahir Jésus sans arrêt. Il avait insufflé cette pensée, jamais Judas n'avait rejeté la pensée. Frères et sœurs, nous avons besoin de savoir que nous avons autorité sur les mauvaises pensées. Nous avons reçu autorité. Nous n'acceptons pas. Si vous avez des mauvaises pensées, des tentations, désir de faire des mauvaises choses, que vous savez que c'est pas bon, vous devez utiliser votre autorité. Tant pis si la chair n'aime pas, vous devez dire non, je refuse. Vous devez vous parler à haute voix et arrêter toute tentation. Parce que le diable, il agit derrière et les fruits, c'est la mort. Il faut le dire, c'est la mort. Tout ce que vous ne donnez pas entièrement à Dieu, alléluia, dans votre vie, si votre cœur n'est pas entièrement à Dieu, les fruits qui vont en venir produiront de la mort dans votre vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous le dis, c'est le temps de laisser tomber le monde et de venir entièrement à Jésus. C'est le temps d'être entier pour Dieu. Alléluia. Alors regardez, pendant le repas, le diable avait mis à cœur depuis longtemps à Judas de le livrer. Ça veut dire que Satan avait bombardé sa pensée. Pendant des jours et des jours, tu vas livrer Jésus, tu vas le livrer. Et il croyait que c'était lui. Naturellement, il n'avait pas fait le rapport avec Satan, mais c'était Satan qui était derrière. Il l'a bombardé encore et encore et encore. Faites attention quand dans vos pensées, vous êtes bombardé. Ça ne vient pas de vous. Derrière, il y a le diable. Vous savez, vous n'êtes jamais bombardé par des bonnes pensées. Vous avez remarqué ? Les bonnes pensées, aujourd'hui, je vais faire des choses extraordinaires. Vous n'êtes jamais bombardé. Mais quand vous voulez vous venger ou faire du mal ou faire des mauvaises choses, vous avez la pression dans la pensée. Vous êtes bombardé par des pensées mauvaises. Eh bien, vous devez faire très, très attention quand ces choses-là viennent. Parce que Satan est derrière. Et il est dit que après que Satan l'ait bombardé, qu'est-ce qui s'est fait ? Eh bien, il est dit que Satan a pénétré en lui. Et là, c'est grave. Satan a pu entrer. Vous voyez, tant que c'était dans la pensée, il n'avait pas encore d'entrée. Mais il savait qu'il était en train de gagner. Mais quand cette pensée est descendue dans le cœur de Judas, c'était fini. C'est comme cette femme, c'était fini. Alors vous devez comprendre les niveaux de tourment que vous pouvez supporter. Si vous êtes tourmenté par des pensées, vous devez dire au nom de Jésus, je plaide le sang, je plaide le sang. Je reconnais que ce ne sont pas des bonnes pensées, ni sur moi, ni sur ma famille ou les liens. Je plaide le sang, je protège, je me protège et j'arrête ces pensées. Quand vous dites j'arrête ces pensées, elles vont s'arrêter parce que vous avez autorité. Mais Judas n'a jamais arrêté les pensées. Il s'est laissé bombarder jusqu'au moment de ce dernier repas. Et là, il est dit que Satan entra en lui. Jésus dit, regardez Jean 13, 26, « Celui à qui je donnerai le pain trempé, c'est lui qui va me trahir. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Ça veut dire que, vous voyez, il y avait une telle intimité entre Jésus et Judas qu'il mangeait, vous savez, selon la façon orientale de manger, c'est-à-dire tout le monde était assis sur des lits et il mangeait dans la même assiette, si vous voulez. Alors, il y avait plusieurs assiettes et Judas et Jésus étaient tout proches et ils trempaient le pain dans la même assiette. Ça veut dire qu'il y avait un jus de quelque chose, vous voyez, de légumes, etc. Et ils trempaient ensemble. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Celui avec qui je vais tremper le pain, eh bien, c'est lui qui va me trahir. » Et il trempe le pain et il le donne à Judas. Et dès que Judas a pris le pain en disant « Oui, c'est moi, ça voulait dire, c'est moi », Satan est entré en lui. Et Satan était là, dans son esprit. La pensée était descendue, « Je vais te trahir ». À partir du moment où c'est descendu là, plus rien ne peut arrêter. Plus rien, Satan est entré dans Judas. Vous comprenez ? Ça veut dire que la trahison était accomplie. Il était décidé. C'est ce qui s'est passé. Il est allé et il a trahi Jésus avec un baiser dans le jardin de Gethsémané. Et ensuite, vous connaissez, c'est donc la traîtrise même. Hein. Donc vous voyez, son âme était vraiment enténébrée. Et Satan avait pris le contrôle là, de sa vie. Mais ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que les conséquences de la trahison sont terribles pour celui qui trahit et qui en est conscient, surtout quand on touche à l'onction. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la destruction qui vient. Destruction dans le travail, destruction dans la vie de famille, destruction dans les mariages, destruction autour de soi. Les gens se détruisent eux-mêmes à cause de la trahison. Donc vous devez faire attention, la trahison est terrible. Ne trahissez pas. Ne trahissez pas vos amis, même vos ennemis. La trahison, c'est une arme de Satan. Et la conséquence de la trahison, c'est la mort. Qu'est-ce qui s'est passé pour Judas? Il n'avait pas d'autre choix que d'aller se suicider. Souvent, les gens qui trahissent pensent au suicide. Souvent. Et si les gens qui sont trahis souffrent, ceux qui trahissent n'ont pas d'espoir. Vous voyez? Ils n'ont pas d'espoir. Et qu'est-ce qu'a fait Judas? Il est allé se suicider. Il est allé se pendre avec sa ceinture. Et il est dit qu'il est tombé de l'arbre, hein, la branche a cassé, et que tout son corps s'est répandu, ses entrailles se sont répandues sur la terre, tellement cette mort a été horrible. Donc il est descendu tout droit en enfer. C'est terrible, cette mort, parce que la trahison détruit. Frères et sœurs, Simon-Pierre a trahi, motivé par la peur. Mais Simon-Pierre, lui, s'est repenti. Son amour pour Jésus était grand et son cœur était droit. Son cœur était honnête. Frères et sœurs, votre garantie dans votre vie de plaire à Dieu, c'est de garder votre cœur droit, de vous garder droitement. Peut-être vous faites des erreurs à droite, à gauche, mais vous revenez parce que vous avez le désir de vous repentir. Pierre s'est repenti, jamais Jésus l'a abandonné. Et il lui a toujours tendu la main et il l'a établi dans la position de l'apôtre, on peut dire de l'apôtre de Jérusalem. Donc vous voyez, il s'est repenti. Mais ça n'est pas la même trahison. Le traître, c'est celui qui a un esprit double. Celui qui pense d'une façon et puis qui a aussi une zone de ténèbres. Ça s'appelle un esprit double. La Bible en parle et elle dit « N'ayez pas un esprit double, soyez entiers pour Dieu. N'ayez pas deux poids, deux mesures. Je suis à l'église et puis chez moi c'est différent. » soyez entiers pour Dieu, que votre cœur soit entier pour Dieu. Parce que notre cœur, c'est ce que Dieu regarde. Je voudrais que vous regardiez dans 2 Timothée pour que vous compreniez bien qu'à partir du moment où le Seigneur vous a sauvé, il vous a appelé. Il vous a tous appelés, nous sommes tous appelés. Comme Judas était appelé à un ministère, lui, extraordinaire d'apôtre, comme tous les chrétiens sont appelés à servir Dieu. Nous avons tous un appel. Et donc dans cet appel, à partir du moment où nous sommes en Christ et nous commençons à marcher avec Dieu, Dieu commence à voir ce qu'il y a dans notre cœur. Il veut voir si nous sommes vraiment qualifiés dans l'appel. Vous comprenez? Alors regardez dans 2 Timothée. J'ai mis ma référence là. 2 Timothée 1, verset 9. Voilà, j'arrive. 2 Timothée 1, verset 9 nous dit, verset 8, « N'aie donc pas honte, dit l'apôtre Paul à Timothée, son enfant spirituel. Hein. N'aie donc pas honte de rendre à notre Seigneur, ni à moi son prisonnier, de rendre témoignage. N'aie donc pas honte du témoignage. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. » Premièrement, nous avons tous été sauvés. Et nous a adressé une sainte vocation, ça veut dire un saint appel. Frères et sœurs, vous ne devez pas vous considérer comme dans le monde, je suis chrétien, je vais à l'église et puis c'est tout. Non, vous avez un appel à réaliser sur cette terre. Vous avez quelque chose à faire pour Dieu sur cette terre. Il faut que vous en imprégniez de cette pensée. Chaque chrétien a reçu un appel à servir son Dieu. Dans son église locale, dans sa vie, dans sa famille, c'est un appel saint. Et l'apôtre Paul dit, c'est une sainte vocation. Ça veut dire, c'est pas quelque chose qu'on met derrière notre poche en disant, non, c'est quelque chose qui est saint, qu'on honore. On sait qu'on est appelé. Vous, frères et sœurs qui venez de pays étrangers, vous êtes là, en train de vous enraciner dans le pays de France. Dieu vous appelle. C'est un appel. Amen. Il y a un appel dans votre vie. Vous n'êtes pas venu par hasard. Il y a un appel. Et Dieu vous dit, adapte-toi à ce pays. Adapte-toi à sa façon d'être. Parce que Dieu veut t'utiliser dans ce pays. Ne te considère plus comme un étranger. Si tu as tes papiers maintenant, alors tu fais partie de cette société. Entre de plein pied dedans. Tu ne vas pas être infidèle à tes pères. Simplement, tu vas répondre à Jésus-Christ. Et tu vas répondre à ton appel. Tu as un appel. Nous avons un appel. Et c'est une sainte vocation, il est dit, que Dieu nous a adressée, non à cause de nos œuvres, non, mais à cause, alléluia, de la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Donc c'est glorieux, frères et sœurs, d'être chrétiens. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez été sauvés, ça ne s'arrête pas là. Vous avez maintenant à entrer dans votre appel. Vous avez maintenant à recevoir tout ce que Dieu a pour vous, à mettre votre vie en règle, à veiller sur votre cœur. De façon à ce que le caractère de Jésus-Christ s'intègre dans votre vie. L'honnêteté, la droiture, la fidélité, la persévérance, la patience, c'est des choses que Dieu veut voir en nous. Et qui fait que quand nous traversons des épreuves, Dieu regarde. Dieu n'enlève pas toutes les épreuves. Non. S'il enlevait toutes les épreuves, alors pourquoi les souffrances? Il dit, nous avons des souffrances à partir... Tenir à Christ, c'est aussi accepter les souffrances. Il y a des souffrances dans le ministère et il y a des souffrances dans la vie chrétienne. Hein? Ça voudrait dire que on nous enlève tout, nous, non, tout va bien. Hein? Non, il y a des épreuves, il y a des souffrances, il faut le croire, mais on a des forces. Alléluia. Et donc, quand on est chrétien, on doit affronter les épreuves et les souffrances avec courage et on doit voir ce qu'il y a dans notre cœur, comment on réagit. Il y a des gens qui passent par des drames. Comment est-ce qu'ils réagissent? Certains se rapprochent de Dieu, d'autres s'éloignent définitivement de Dieu. Il y a des épreuves qui sont des tests dans nos vies. Il y a des situations qui testent notre engagement, notre foi. Et le Seigneur veut voir, il n'agira pas, il regarde ce que nous faisons. Il regarde comment nous nous comportons. Il regarde comment nous sommes, comment nous agissons. Ce sont des tests. Dans notre vie, il y a des tests. Constamment, nous sommes dans des périodes de tests. Des temps de désert où Dieu ne répond pas volontairement. parce qu'il veut que nous changions. Il veut que nous arrêtions ces vieilles racines, qu'on convoite, qu'on garde dans notre vie, cette façon d'être, cette façon de voir, pour qu'on les déracine et qu'on change. Et Dieu, il nous laisse dans les tests. Il nous laisse dans certains déserts. Il nous laisse dans certaines épreuves jusqu'à ce qu'on ait changé. Et le changement, ça se fait avec Dieu, mais c'est notre décision. On n'est pas des pantins. Si on n'a pas vu notre problème, eh bien le problème subsiste. Si on n'a pas vu ce que Dieu veut enlever et déraciner en nous, le problème subsiste. Et Dieu ne fait rien et on est dans un désert et on a beau chercher, rien ne change. C'est normal. Dieu nous laisse cette période de test pour qu'on change. Et le changement se fait avec une compréhension des choses. Tout ce qu'on n'a pas compris ne peut pas agir pour nous. Dieu ne fait pas les choses sans qu'on comprenne. Comprenez ? J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe là. J'ai besoin d'analyser. J'ai besoin d'être intelligent, d'avoir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la compréhension surnaturelle des choses avec l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ? On devrait comprendre les choses mieux que le monde puisqu'on a la sagesse de Dieu. On n'est pas aveugle, on voit, on a une double vision. Alléluia. Donc, frères et sœurs, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, tu as une sainte vocation. Bien sûr qu'il était appelé à faire le ministère avec Paul, mais il lui parle de son appel et il lui dit, à cause de cela, n'aie pas honte de l'évangile. Rappelle-toi, nous sommes tous appelés, mais à cause de ça, nous avons besoin de mettre dans notre cœur des bonnes choses et de veiller sur notre cœur. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Regardons maintenant dans Jacques pour comprendre comment vient la convoitise du péché, comment vient l'idée de trahir. Rappelez-vous que Jésus a dit dans les évangiles, c'est de notre cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les mauvaises choses, la trahison, les adultères, les meurtres même. Alors, comment ça se passe? Jacques en a parlé très bien. La trahison, frères et sœurs, on a besoin de savoir que c'est terrible. Et on a besoin de savoir qu'il y a des conséquences. Il y a des gens qui ont des idées suicidaires. Mais si vous grattez un peu, il y a eu de la trahison dans leur vie. Et il y a des gens qui ont tout perdu ou qui sont dans un processus de destruction parce qu'ils ont eux-mêmes détruit. Vous comprenez? Nous ne voulons pas toucher à ces choses. Nous voulons nous protéger. Frères et sœurs, quand il y a l'onction, le diable agite les gens qui sont proches de ceux qui portent l'onction pour utiliser cette arme. Si Jésus l'a eu, vous devez savoir que c'est une arme que Satan essaiera d'utiliser. Mais si vous êtes averti, vous savez que vous avez autorité pour mettre des pensées mauvaises dehors. Nous avons autorité. Amen. Et regardez donc dans Jacques, Jacques chapitre 1, verset 14. Voilà, oui. Regardez comme c'est bien expliqué là. Jacques, il parle bien sûr de celui qui sait supporter les tentations. Jésus a été tenté. Judas a été tenté. Et il a été tenté. Et il a été tenté toujours sur le même thème. Il faut que tu vendes Jésus. Vends-le, ne le suis pas. Toujours sur le même thème. Et là, au verset 12, on lui dit, heureux l'homme, béni soit l'homme qui supporte patiemment la tentation, sans tomber, vous voyez, car après avoir été éprouvé, il va être approuvé. Il recevra la récompense, la couronne de vie que le Seigneur lui donnera. Bien, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Ah, réfléchissons, ça veut dire Dieu s'adresse à des enfants intelligents, qui réfléchissent et qui comprennent ce qui se passe dans leur vie. Ne dites pas « c'est Dieu qui me tente ». Si vous êtes tenté de faire des choses en dehors de la volonté de Dieu, ne dites pas « c'est Dieu qui m'a conduit là-dedans ». Non, c'est vous. Hein, c'est vous. Et donc, personne ne peut dire « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu, lui, il ne tente personne. Hein, il ne tente pas. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais voilà l'explication. Chacun est tenté quand il est attiré. Premièrement, attiré. Vous voyez, une pensée vous attire. Vous savez que ce n'est pas une bonne pensée. Vous savez que ce n'est pas un bon plan. Avec la pensée vient une image. Alors, je ne sais pas dans quel sujet ça peut vous intéresser. Peut-être dans le passé, vous pouvez comprendre. Et en tous les cas, ça prévient dans le futur, cet enseignement. Vous dites, non, il n'y aura pas de trahison dans ma vie. Mais dans la vie de Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a accepté et il a été tenté par une pensée qui a été, on peut dire, insufflée constamment. Et l'apôtre Jacques dit « Chacun est tenté quand il est attiré. » Attiré par une pensée, attiré dans quelque chose qu'il sait qui n'est pas bon, mais ça l'attire. Et vous savez, la chair, on en a parlé dans les groupes de maison, ça vient de notre vieille nature qui est crucifiée, qui doit rester crucifiée. Et notre chair, on a besoin de la crucifier tous les jours. Parce que notre chair, elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et je vous ai dit, la chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est la vieille nature qui a des désirs et qui utilise, bien sûr, l'âme et le corps pour se faire une place. Vous me suivez là? Vous l'avez... Qui c'est qui a eu ce cours sur la chair? Hein? Il était très bon. Parce qu'il explique bien ce qu'est la chair. La chair, c'est les désirs de notre ancienne nature qui a besoin de rester crucifiée. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est ça. Je crucifie ma chair et elle y reste le plus possible. Dès qu'elle se décloue, qu'elle vient, elle pose des problèmes. D'accord? Alors, regardez ce que dit l'apôtre Jacques. Il dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Vous savez, une amorce. Par exemple, quand vous allez faire éclater quelque chose, hein, et ben vous dégagez le... et ça va sauter. Hein? Voilà. Hein? Vous voyez? Hein? On dégage les choses. On amorce plutôt. Je ne sais pas comment, mais en tous les cas, on va faire éclater quelque chose. Eh bien, on est amorcé. Alors, il y a deux étapes, on peut dire. Premièrement, on est attiré, et ensuite amorcé. Parce qu'à force d'avoir accepté les choses, eh bien, on est accroché après. On est attaché. Et ensuite, il est dit, on est amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, la convoitise, elle conçoit. Elle conçoit un plan. Elle sait quoi faire. Judas, quand il a convoité. Et ensuite, le plan est venu et Satan est entré. Et c'était fait. Dans la nuit, lorsque Jésus a commencé à laver les pieds de ses disciples, Judas n'était plus là. Il s'est arrêté au milieu du repas. Et il est parti accomplir sa trahison. Pendant ce temps, Jésus savait ce qui se passait, parce qu'il avait vu dans le cœur de Judas ce qui se passait. Donc il a parlé à ses disciples. Il leur a dit, voilà comment vous devez vous comporter les uns avec les autres. Il leur a parlé des choses importantes. Et ensuite, il est allé dans le jardin avec ses disciples. Et il leur a demandé de prier avec eux, avec lui, parce que le moment était dur. Il était en train de prendre la coupe de la trahison, la coupe de la malédiction sur lui. Et Judas était en train d'opérer et d'agir. Pourquoi? Il avait été attiré, ensuite amorcé, et sa convoitise avait tellement grandi qu'elle était en train de concevoir le péché. Et le péché, regardez, étant consommé, produit la mort. Le péché produit toujours la mort. Il tue en vous les choses de l'esprit. Il tue en vous quelque chose. Vous voyez? Donc voyez, Judas est un traître. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que la trahison est extrêmement dangereuse comme arme et que nous ne devons pas l'utiliser. Parce que la trahison se retourne contre celui qui l'utilise. Et ensuite, la vie de ces gens-là, souvent, est terriblement détruite. Ils se la détruisent eux-mêmes. Et la main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu se retire de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus, mais ils ont une vie difficile, ils descendent à un autre niveau. Amen. Donc voilà tout ce qui concerne la trahison. Je pense que nous avons compris que notre cœur est ce qu'il y a de plus précieux. Ce qu'on abrite dans nos pensées, c'est précieux. Ce que nous croyons, ce que nous pensons, c'est pourquoi la parole de Dieu est tellement importante. C'est pourquoi avoir suivi ces cours est tellement importante. Vous avez eu et vous avez reçu de la parole, et la parole, la connaissance de Dieu vient dans votre pensée. Vos pensées changent, c'est obligé. On est en contact avec la parole de Dieu, on change. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau de vos pensées, ce que vous abritez va descendre dans votre cœur. Ce que vous croyez va descendre dans votre cœur. La parole de Dieu descend dans votre cœur. Amen. Ça va, mes frères et sœurs? Et si vous abritez des mauvaises pensées, que vous les gardez, que vous les... on peut dire, comme on a lu tout à l'heure dans Jacques, que vous les abritiez, hein, et que vous les, les, que vous soyez attiré par ces pensées et amorcé. Ça veut dire que vous commencez à rêver dessus, à penser dessus. Vous voyez ? Ça va descendre dans votre esprit, dans votre cœur. Et à ce moment-là, ça va produire quelque chose de mauvais. Amen. Nous devons comprendre le processus de ce qui s'est passé dans la vie de Judas. Ça a commencé par une pensée, une frustration. Il était plein d'orgueil, il n'était pas content. Et un désir de se venger. Et voilà, la chose est arrivée. Frères et sœurs, il y a des pensées que nous abritons qui ne viennent pas de Dieu. Et comme on veut les croire, on se dit c'est Dieu. C'est Dieu. Mais Dieu, non, il respecte toujours l'ordre. Il y a un ordre qu'il a établi et on ne passe jamais sur son ordre. C'est pourquoi on a besoin de la parole. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que vous êtes aidés en ce qui concerne la trahison? C'est une arme que vous n'utiliserez pas. C'est une arme que nous n'utiliserons pas. Et le diable l'utilise dans les églises, je vous le dis. Il utilise cette arme beaucoup. Mais lorsqu'il y a des chrétiens engagés, solides, qui comprennent leur engagement et qui ont un cœur entier pour Dieu, il ne peut rien faire. Alléluia. Mais c'est important, il faut le savoir. Amen. Donc je termine là-dessus, frères et sœurs. Attention à la trahison, avec des bonnes pensées. Attention à mélanger et à se dire, parce que j'ai une motivation qui n'est pas pure, je crois que c'est Dieu qui me donne telle et telle pensée. Ça, c'est grave. Allez voir le pasteur avec des pensées particulières et vous verrez ce qu'il vous dira. Je connais un serviteur de Dieu qui raconte, justement, en ce qui concerne la trahison, il a un merveilleux ministère, mais il a été formé auprès d'un pasteur qui lui a tout donné, ce qu'il savait, qu'il a beaucoup béni. Et à un moment donné, il lui a dit, « Bon, maintenant, pasteur, moi, je veux partir dans le ministère, je veux monter une église à côté. » Le pasteur lui a dit, « Tu n'es pas prêt, ne fais pas ça. En plus de la monter à côté, non. » Et puis, je le dis sincèrement devant toi, tu n'es pas prêt. Ça n'est pas ta place de faire ça. Et l'autre, il s'est rebellé, il est parti avec sa famille. Il a eu un problème terrible, ses enfants sont tombés malades, il a eu que des problèmes, il est revenu au bout d'un certain temps et il a demandé pardon à son pasteur. Et il a dit, vous aviez raison, et il s'est humilié vraiment. Il raconte ça avec terriblement parce qu'il dit, je vous ai trahi. Il a trahi son pasteur. Et il est revenu sur les genoux en pleurant. Hein. Et le Seigneur l'a rétabli longtemps après, il a été capable de faire quelque chose. Mais vous voyez, les pasteurs ont la sagesse pour diriger le peuple de Dieu, pour le conduire. Ce sont des conducteurs. Et lorsqu'on a des désirs dans le cœur et que ces désirs ne sont pas en accord avec la volonté parfaite de Dieu, il faut faire attention, il faut les soumettre à Dieu ou alors les rejeter. Amen. Il y a des pensées qu'il faut rejeter, carrément. Hein? Je vous assure qu'il y a des personnes, et je pleure encore sur leur sort, qui s'ils m'avaient écouté ou si elles m'avaient écouté, seraient revenus et auraient été bénis dans leur vie. Mais ils ont suivi leur voie, ils n'ont pas tenu compte des conseils et ils se sont détruits. Ils ont détruit leur famille, ils ont détruit la vie de leurs enfants, ils ont tout détruit. Donc nous ne devons pas entrer dans ces choses. Alléluia, je termine avec cela. Je veux prier parce que c'est très très important ce message. J'aimerais qu'il soit donné à tout le monde, que tout le monde puisse l'écouter. Parce que la trahison, c'est une arme de Satan. Judas l'a utilisée et souvent dans les églises, quand l'église commence à grandir, quand l'église commence à se multiplier, alléluia, je vais vous dire, il y a cette arme que l'ennemi brandit. Il utilise tel et tel moyen, mais il veut utiliser la trahison. Parce que ça fait mal et ça crée des divisions. Amen. Alors, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Ça fait partie des plans de l'ennemi et nous devons protéger notre église. Hein? J'ai entendu parler de trahisons qui sont faites dans des églises et ça a entraîné des gens qui ensuite sont perdus. Quoi. Le problème, c'est que les brebis, c'est-à-dire nous sommes le troupeau de Dieu comme des brebis, doivent être protégés. Chacun de nous devons protéger les uns et les autres, afin de marcher ensemble et de ne pas être blessé par ces choses. Amen. Et vous voyez pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a voulu leur montrer un acte d'amour, tellement l'acte de Judas était grave, de façon à ce qu'ils restent dans l'amour et qu'ils restent unis les uns aux autres. Jésus était intelligent. Il leur a dit, si vous vous lavez les pieds les uns les autres, si vous restez unis, ensemble, vous serez indestructibles. Judas est perdu, il est parti dans son destin, mais vous, même si vous faites des erreurs, restez unis. Amen. Oh, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Vous savez, c'est la même chose dans les familles. C'est la même chose dans les couples. C'est la même chose avec les enfants. Vous savez, on peut vous trahir. Mais suivant votre attitude, les gens peuvent revenir à vous. Hein? Les enfants peuvent vous, peut-être un temps vous abandonner, peut-être. Mais ils reviendront parce que vous continuez de les aimer et vous, votre porte est ouverte. Mais lorsqu'il y a des choses graves avec l'onction qui se produisent, ça a des conséquences davantage. Ça a de terribles conséquences. C'est pourquoi, frères et sœurs, cet enseignement est pour nous aider comme un garde-fou afin de reconnaître les pensées de l'ennemi et de prendre autorité contre elles. Amen. Qui n'a pas été tenté? Qui n'a pas eu des idées de trahison ou que ce soit? Les gens ont pu avoir ces choses-là. Mais l'important, c'est qu'on n'a pas cédé. Vous n'avez pas cédé, je n'ai pas cédé à ces choses, donc on est victorieux. Et Satan ne reviendra plus vous tenter parce qu'il sait qu'il n'a pas de porte ouverte. Amen. Seigneur, je libère sur ton peuple, Seigneur, cette compréhension que la tentation est une arme que Satan a utilisée pour Jésus et contre Jésus, et que Judas était si proche de Jésus. Et que cette arme, elle peut être utilisée, et que l'ennemi essaiera de l'utiliser dans le futur, mais Seigneur, nous ne lui permettrons pas. Nous ne le permettrons pas, parce que c'est une arme mauvaise qui n'a aucune place au milieu de nous. Seigneur, je prie pour chacun de nous, afin que nous soyons vigilants en ce qui concerne nos pensées, afin de ne pas abriter des pensées dangereuses et mauvaises qui produiront de mauvais. Je sens l'onction de Dieu, je ne sais pas pourquoi, frères et sœurs, mais je pense que nous avons besoin de recevoir l'onction de Dieu dans ce domaine, Père, et de lier et détruire toute pensée de trahison, toute pensée mauvaise qui s'élève contre la volonté de Dieu. Père, ce matin, par ton esprit, tu l'as détruit. Toute pensée, Seigneur, qui vient contre le oin de l'Éternel, les oins de l'Éternel sont arrêtés, Père, dans le nom puissant de Jésus. Aucune trahison. Aucune pensée de trahison ne grandit en nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ouh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une onction. Alléluia. Frères et sœurs, simplement recevez. Recevez, Père, aucune pensée pour trahir qui que ce soit. Les secrets des uns et des autres ne peut être trahi. Aucune trahison en ce qui concerne votre Église, vos frères et sœurs, vos responsables, votre pasteur. Aucune trahison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, c'est notre décision. C'est notre décision. Réfléchissez, frères. Nous sommes responsables. Satan ne peut rien faire. Alléluia. On ne va pas chasser l'esprit de trahison. Non, parce que c'est une décision. La trahison, c'est un acte particulier que nous posons, que nous faisons, que nous disons, qui va produire de mauvais fruits, mais c'est nous qui le faisons. Donc c'est à nous à ne pas céder à cet esprit, à ne pas céder à cette pensée, à la reconnaître et à dire non au nom de Jésus. Je dis non à la trahison, je dis non, elle n'aura pas de place en moi, elle n'aura aucune place dans ce pays, aucune place dans cette région. Au nom de Jésus, nous serons fidèles, nous serons honnêtes, nous serons droits, nous marcherons d'un cœur entier, d'un cœur intègre, de tout notre cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Dieu savait qui le trahissait. Dieu savait qui le bénirait. Il connaissait les siens. Il connaissait le cœur de ses apôtres. Il connaissait qu'il y en avait un qui était tordu. Mais il lui a toujours donné la chance de se reprendre. Il lui a toujours donné la porte ouverte pour qu'il revienne et pour qu'il change. Au niveau de sa pensée. Amen. Merci Seigneur de comprendre l'importance d'être honnête. Ne mentez pas. Ne mentez pas à votre mari, ne mentez pas à votre épouse, ne mentez pas à vos enfants. Rejetez le mensonge, ça commence par là. Ne mentez pas, frères et sœurs. Peut-être vous êtes habitués à raconter par une pirouette ci ou ça pour éviter. Ne mentez pas. Si vous ne devez pas dire quelque chose, ne le dites pas, mais ne mentez pas. Et apprenez à être honnête. Soyez honnête dans vos finances. Soyez honnête, alléluia, dans tout ce que vous faites, que tout soit fait dans la lumière, soyez honnête et soyez fidèle, amen. La fidélité, c'est aussi la marque d'un cœur entier, L'apôtre Paul a dit, je sais que Dieu m'a jugé fidèle pour m'établir dans le ministère. Fidèle, la fidélité à votre église, la fidélité à votre pasteur, la fidélité à vos frères et sœurs, la fidélité à vos responsables prouve que vous marchez entièrement pour Dieu. Être fidèle, c'est une clé de réussite dans la vie chrétienne. Alléluia. Et Dieu a jugé l'apôtre Paul fidèle. Il avait d'autres capacités, mais ce n'est pas ces capacités que Dieu a vues, c'est la fidélité. Dieu teste nos cœurs pour voir s'il y a de la fidélité dans nos cœurs. Apprenons ces choses. Si nous sommes des jeunes chrétiens, frères et sœurs, apprenons ces choses. Nous ne les apprendrons pas dans le monde. Rejetons le monde, mais nous apprendrons dans la parole de Dieu, dans l'Église. Nous apprenons la fidélité. Nous apprenons l'honnêteté. Nous savons que nous ne pouvons pas mentir parce que Jésus a dit que Satan est le père du mensonge et il est menteur depuis le début. Mais nous, nous nous rejetons le mensonge. Nous parlons selon la vérité. Amen. Oh, soyons vrais, frères et sœurs, grandissons. Alléluia. Je vous laisse ces trois choses, frères et sœurs. La fidélité, quand on est fidèle, il n'y a pas de trahison possible. Amen. La fidélité, c'est l'antidote contre la trahison. La fidélité, l'honnêteté, la droiture, dans nos relations aussi. Soyons honnêtes les uns avec les autres, dans nos finances, dans tout ce que nous faisons. Soyons pas à deux visages. Hypocrite, mais honnête. Apprenons ces choses. Alléluia. Fortifions-nous. Apprenons ces qualités de caractère. Alléluia. Et soyons vraiment entiers pour Dieu. Le monde ne plaira pas à Dieu. Si nous avons des critères en nous, dans notre cœur, qui viennent du monde, le Seigneur va les déraciner. Les désirs du monde ne sont pas bons pour nous. Il faut que le monde soit arraché de notre cœur. Vous rappelez pourquoi Moïse a erré 40 ans dans le désert, parce qu'il a dû attendre 40 ans pour que les gens changent. Mais ils n'ont pas changé, donc ils sont morts. Mais lorsque Moïse est parti lui-même dans le désert pour fuir Pharaon, lorsqu'il avait 40 ans, eh bien, il lui a fallu 40 ans pour arracher l'Égypte de son cœur. Arracher le monde de son cœur. L'Égypte était dans son cœur. Il avait été élevé en Égypte, il avait été élevé à côté de Pharaon, il avait appris tout ce qui tient à la grandeur de ce dictateur, de ce Pharaon, de ce roi. Il avait tout, il lui a fallu 40 ans pour désapprendre. Mais après, il était prêt. Amen. Arrachons, laissons Dieu déraciner totalement les valeurs qui viennent du monde afin de les remplacer par les valeurs de la parole. Amen. Est-ce que ça va, mes amis? Alléluia, nous grandissons ensemble, nous apprenons ensemble. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Rappelez-vous, frères et sœurs, que vous êtes dans un monde qui n'a pas toujours ses valeurs. Hein? Vous êtes dans un monde qui ne connaît pas ses valeurs. Alléluia. C'est pourquoi il faut que vous les ayez dans votre cœur. Et le Seigneur vous éclaire dans sa parole. Et il les place dans votre cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia.